Vous connaissez l'histoire pour mettre des gens mal à l'aise. Bonjour à tous ceux qui sont venus en retard et que j'ai pas pu saluer. Ça fait lourd, hein? Oh, c'est pas beau, c'est pas... Bah. En tout cas, de tout cœur, bonjour. C'était une blague. Ce matin, on nous a fait penser que la parole de Dieu est le fondement, on le connaît, on vit avec lui au travers d'elle. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film Le Livre d'Élie? Non. C'est un film de science-fiction, c'est la fin du monde, on détruit tout comme souvent dans ces cas-là. Et il y avait un homme, il avait une responsabilité, c'était d'emmener sur une île, dans un château, la Bible, pour qu'elle ne soit pas détruite et qu'elle reste. Et il y avait là un méchant qui avait compris que la Bible est là, des connaissances et donne des pouvoirs. Et il a tout pris, voulu arrêter cet homme pour avoir la Bible. Et il a réussi. Et il s'est rendu compte qu'elle était en braille. Et il savait pas quoi faire avec. Et sa femme était aveugle et connaissait le braille, ou avait quelqu'un dans la famille qui connaissait le braille. Et il lui a demandé de traduire, elle a dit non, je ne le ferai pas. Parce qu'elle-même savait que son mari ne cherchait que le pouvoir. Et en fin de compte, c'est... pas la Bible elle-même, comme ça, le livre, ni ce qu'elle contient uniquement. Mais c'est quand le Saint-Esprit pénètre cette Bible et la fait entrer dans notre intelligence, notre être tout entier, qu'elle transforme la vie et qu'elle nous dévoile le Père. C'est pas le fait de l'avoir. C'est le fait que le Saint-Esprit l'applique dans notre vie. Et alors pour ça, bien sûr, je dois la lire, je dois... la méditer, y réfléchir, mais c'est lui qui le fait. Alors, ce matin, j'aimerais vous emmener 6 siècles avant Jésus-Christ. En l'an 686, le temple de Jérusalem est détruit par les Babyloniens. Ils étaient commandés par Nebuchadnezzar II, qui a fait un siège de 18 mois. À l'époque, lorsque le peuple d'Israël se détournait de Dieu et commençait à s'intéresser et à se soumettre aux idoles des peuples qui étaient autour de lui, Dieu à ce moment-là retirait sa main et permettait des moments très difficiles pour qu'il réalise « Mais hey, la vie, c'est pas seulement le manger et le boire, c'est le connaître et vivre pour lui. » Donc il permettait des moments très très durs pour que son peuple réalise qu'est-ce que ça coûte de se détourner de lui et de commencer à s'intéresser aux idoles autour de nous. En 539, donc pas tout à fait 40 ans après, donc 539 avant Jésus-Christ, Cyrus II, roi de Perse, qui a conquis Babylone, a permis aux Juifs de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et je vous prie de prendre le livre d'Esdras. Alors, de la même façon que Dieu donnait le pouvoir à des peuples païens pour reprendre son propre peuple, il était capable de prendre des rois païens pour accomplir sa volonté. Et là, nous allons lire les 5 premiers versets. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail avec les offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. C'est fantastique. On est dans des moments un peu troublés, hein. On a là des puissances qui sont en train de... On regarde la télé, on se dit, ouh là 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 là. Encore ce matin, je me suis dit, 2 euros et quelques pour un litre de gasoil, je préfère payer ça que d'être dans leur pays où ils en ont tout plein et vivent une telle misère. Nous sommes là, en ce moment, de nouveau, compressés. On ne connaît pas la suite, mais une chose est certaine. Dieu la connaît et sa volonté s'accomplira. On comprendra peut-être pas. Mais c'est lui qui règne, c'est pas les grands de ce monde. Dans Ésaïe 40, il est écrit, ils sont comme une goutte d'eau dans un seau. Plouf ! Et pourtant, on a l'impression qu'ils ont du pouvoir. Donc il a réveillé l'esprit de Cyrus pour aller faire rebâtir le temple de l'Éternel, qu'il reconnaît. Fantastique. Et ils y vont. Alors on va aller au chapitre 3 et on va lire les 4 premiers versets. C'est fascinant. Alors, est-ce que c'est vraiment ça, 3, 1 à 4? Ouais, c'est ça. À l'aube du 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Rebâtir le temple. Josué, fils de Jotsadak, accompagné de ses frères, les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, accompagné de ses frères, se levèrent et reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondations, malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région. Et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Et après, ils font même la fête des huttes et ainsi de suite. Assez particulier. Ils vont pour rebâtir le temple. Ils reçoivent des gens, le bois, l'eau, l'argent, tout ce dont ils avaient besoin. Et la première chose qu'ils font, c'est l'autel. Et cet autel était hors du temple, il était devant le temple. Pourquoi ils font cela? Pourquoi est-ce qu'ils font en tout premier lieu cet autel pour pouvoir y offrir l'holocauste perpétuel? Alors, il y a une confusion que nous devons éviter. Les religions nous disent, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et pas ça, et pas ça, et pas ça. Et si tu y arrives bien, Dieu sera content et te bénira. Quand on revient à Adam et Ève, ils avaient tout. Dieu était là. Il les aimait, ils parcouraient ensemble le jardin d'Éden. Ils avaient une communion fantastique. Ils avaient à manger les meilleurs fruits et légumes. Les meilleurs. Il y avait une chose qu'ils ne devaient pas faire, c'est se détourner de Dieu pour essayer par eux-mêmes de trouver ce qui est bien et ce qui est mal, et c'est ce que Satan a réussi à faire. Ils se sont cachés. Ils se sont mis des feuilles de figuier. Et vous savez ce que Dieu a dû faire ? Il les a recouverts de peaux de bêtes, d'animaux. À l'époque, les animaux, ils n'avaient pas des pyjamas. On pouvait ça pas simplement ouvrir la fermeture éclair et revêtir quelqu'un d'autre. Ça veut dire un sacrifice. Deux animaux innocents sont morts parce que Adam et Ève avaient désobéi à Dieu et s'étaient détournés de lui. Et la seule façon pour pouvoir pas être exterminé par la sainteté de Dieu, c'était que Dieu lui-même fasse un sacrifice pour que Adam et Ève puissent continuer à vivre sur terre. La communion était rompue, c'était bien moins beau. On voit les conséquences dans Genèse 3, c'est pas... Mais ce sacrifice a couvert leur nudité qu'ils ont essayé de cacher. La religion essaye d'arranger à sa façon. Et ça, c'est dans mon cœur, naturellement. C'est comme ça. Et dans Exode 29, à un moment donné, il explique qu'ils devaient, sur cet autel, quand ils étaient sortis d'Égypte et qu'il avait donné les 10 commandements, qu'il était en train de mettre en place toutes les lois respectées, il avait parlé de cet holocauste perpétuel. Un agneau sans défaut le matin et un agneau sans défaut le soir, avec de l'huile, avec du vin, avec des offrandes. Tous les jours. Vous imaginez un peu le cheptel qu'on aurait si on devait faire ça tous les jours. Matin et soir. Et Dieu disait, et c'est là que je te rencontrerai. Paf, si je rentre dans le temple sans être passé par cet autel où il y a ce sacrifice perpétuel, cet holocauste perpétuel, je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Je peux faire au mieux ce qui est écrit là-dedans, respecter au mieux les 10 commandements. Ça ne me fera jamais entrer dans la présence de Dieu. Et ça, les prêtres de l'époque, d'Esdras, ils l'avaient compris. Ils avaient compris que, avant de construire le temple, nous devons rebâtir l'autel pour que la sainteté de Dieu ne nous consume pas lorsque nous nous rapprocherons vraiment de lui. Vous comprenez ? Hyper important, hyper important. Dieu a offert le premier sacrifice qu'on voit dans la Bible, c'est lui. Et Dieu a offert le dernier sacrifice en Jésus. Il n'y a plus rien à ajouter. Dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit clairement, il n'y a rien à ajouter au sacrifice de Jésus. Ce qu'il a fait, c'est unique et suffit éternellement. Avant-hier, on était à l'enterrement de mon frère. Il était de religion catholique. Et le prêtre, alors moi je suis toujours là, j'étais catholique, je voulais être prêtre. Alors je me dis peut-être ça change un peu, il commence. Non, non. Le prêtre est là avec son calice. Il est là avec son hostie. Il remercie Dieu parce qu'il peut offrir le corps et le sang de Jésus pour la rédemption de mon frère Gilbert. Quelle hérésie. Jésus suffit. Dieu a offert le premier sacrifice pour que Adam et Ève ne soient pas consumés par sa sainteté. Et il a offert un dernier sacrifice qui est celui de son fils bien-aimé pour que nous ne soyons pas consumés par sa sainteté mais qu'on puisse devenir des enfants de Dieu. C'est absolument merveilleux. Et quand Jean-Baptiste voit venir Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il avait compris. Il avait compris et il leur a dit, c'est pas moi, celui qui vient après moi. Je ne suis même pas digne de délier les sandales. Lui vient, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est vraiment ressuscité. Jésus est vraiment vivant. Alors la question que je me pose, mais qu'est-ce qu'il attend de moi ? Est-ce que je dois, moi, développer quelque chose ? Est-ce que je dois, moi, qu'est-ce que je dois faire ? Le premier message que Jésus-Christ transmet, c'est « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Dans nos Bibles, maintenant, on traduit « changer de mentalité ». La repentance était essentielle. Je vais juste essayer de vous développer un peu ce que c'est pour qu'on puisse comprendre, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. L'apôtre Pierre, dans Actes 3, quand ils lui disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Il leur dit, repentez-vous. C'est drôle, hein ? Et quand on lit dans Luc 13, ce chapitre où les apôtres viennent, ils disent, Hérode, il a mélangé le sang de sacrifice, il y a des juifs qui sont morts et qui... Oh. Et Jésus, il leur dit, mais quand la tour de Siloé est tombée et que tant de personnes sont mortes, est-ce qu'ils étaient plus méchants que d'autres ? Et il leur rappelle, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ce que Dieu attend de moi, c'est que je me repente, que je change de mentalité. Alors, j'essaie vraiment de vous transmettre ça. J'ai encore 2 heures, hein, et après c'est fini. Hein. Ouais. Alors, dans cette repentance, il y a certains points, je vais les découper, mais c'est une même chose. Il y a la conviction du péché. En ce moment, moi j'étais éducateur, et on apprenait que, en fin de compte, le péché, c'est du, L'homme, il a des comportements pas bien, il est dans des circuits, même celui qui vole, le pauvre, il est kleptomane, il ne peut pas faire autrement. Mais oui, on ne comprend plus et on ne veut plus entendre le mot péché. Alors, dans Exode 20, il nous donne les 10 commandements. 4 dans notre relation avec Dieu, 6 dans notre relation à nous. Et la conviction de péché, c'est simplement à un moment donné dire, mais mince, alors, dans ma société, faire ça, c'est pas péché. Mais pour Dieu, ça l'est. Je vous donne un exemple. Dans notre société, se rincer l'œil auprès de choses impures n'est pas mauvais, il faut bien se détendre. Dieu dit, c'est péché. Dans notre société, convoiter ce que l'autre il a, mais c'est pas si grave. Dieu dit, convoiter ses péchés. Ça s'arrête rarement à la convoitise, vous comprenez? Oh, ça continue, ça fait son chemin, et au bout d'un moment, c'est la conviction de péché. Alors, le péché, c'est un mot qui fait peur, mais il y a deux choses qu'il faut savoir. Une chose, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. C'est péché. Et la deuxième chose, c'est louper le but. Quand à l'époque, il tirait au championnat de tir à l'arc, l'archer qui avait, ou le tireur à l'arc qui tirait à côté, il avait péché. Il a loupé la cible. Nous avons été créés pour nous délecter, comme tu nous l'as montré ce matin dans les psaumes et les chants, pour nous délecter dans la présence de Dieu. Ça, c'est le but. Je crois même que tu as utilisé le mot « nous avons été créés pour aimer Dieu ». Et d'ailleurs, quand il demande à Jésus, mais c'est quoi le plus grand commandement? Alors Jésus, il est simple, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Alors j'aimerais juste un peu, tout ce que je fais, tout ce que je pense et dans lequel je reste attaché, qui n'est pas motivé par l'amour pour Dieu, et péché. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi ce matin, j'ai déjà péché plusieurs fois. Hein. Dans la pensée, qu'est-ce que ça va vite? Et puis dans la parole, qu'est-ce que ça... Et puis dans les actes, et dans... péché. Ensuite, est-ce que tu es convaincu que nous péchons? C'est ça la question qu'on doit se poser. Ensuite, il y a un élément qui glisse en dessous, j'ai essayé de vous l'expliquer quand même, c'est la contrition. Alors, quand on est catholique, au moment de la communion qu'on fait, on doit dire cette... tu te rappelles, toi, Gilles ? Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Et on a cet acte de contrition qui continue, où je regrette d'avoir offensé Dieu. Est-ce que nous réalisons que quand je fais ce que je veux moi, j'offense Dieu ? On le comprend peut-être un peu mieux si des parents demandent quelque chose aux enfants et que les enfants font le contraire ou autre chose, ils offensent leurs parents. On offense Dieu. Et ce qu'il attend et qu'il aimerait développer chez nous, c'est une tristesse lorsque nous péchons. Dans 2 Corinthiens 7, 17, il écrit... En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et qu'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La nuit de ma conversion, il y avait à cette évangélisation 100% de conversion. Nous étions 4 et les 4 en s'étaient convertis. Mais quand ils m'ont demandé, et toi André, qu'est-ce... J'avais compris que si là je dis oui à Jésus... Il y a des choses que je dois lâcher, que j'aimais faire quand même. J'étais bringueur, hein. J'aimais ça. Je dis, waouh, ça. Alors j'avais dit, écoutez, il faut que j'y réfléchisse. Et il y avait dans mon cœur ce combat entre la tristesse selon le monde, c'est-à-dire je vais laisser des choses que je vais regretter, que... Ah, et puis la tristesse selon Dieu, mais ce que je fais ne l'honore pas, lui fait de la peine. Vous comprenez? Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui nous aide à le comprendre. C'est Jean-Marie et Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a un Jean-Marie ici? Est-ce qu'il y a un Jean-Jacques? Alors, je peux le raconter. Sinon, les gens, ils se disent, mais c'est moi. Mais c'est... Non, non. Jean-Marie et Jean-Jacques. Ils habitaient dans les corons, trois maisons plus loin. Jean-Jacques et Jean-Marie allaient ensemble dans la même classe. Et ils étaient tous les deux doués dans les billes, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Les autres tremblaient rien que quand ils mettaient la main dans la poche pour sortir les billes, ils savaient qu'ils avaient tout perdu. Seulement, quand on joue aux billes, on met un genou par terre. Et quand il y a un peu de goudron, un peu de saleté, ben, c'est le pantalon qui chope. Hein. Et la maman de Jean-Marie et la maman de Jean-Jacques, sans se concerter, avaient décidé de dire à leurs enfants, si tu rentres à midi et que tes genoux et ton pantalon est sale, tu vas dans la cave jusqu'à ce qu'on mange. Ils vont à l'école, ils n'emmènent même pas de billes. Ils y vont, ils regardent, ils disent, mais non, regarde, et prête-moi trois billes, l'autre aussi, et vas-y, parti. Le genou par terre. Ils essayent de nettoyer. Ils arrivent à la maison, Jean-Jacques, il arrive. Sa mère lui dit, Jean-Jacques, je te l'avais dit, va maintenant dans la cave jusqu'au repas de midi. Il y va. Jean-Marie, exactement la même chose. Va dans la cave jusqu'à midi. Et ils sont assis là tous les deux et ils pleurent. Jusqu'à ce qu'ils puissent sortir de la cave pour aller manger. Exactement la même chose, vous êtes d'accord? Tous les deux la même faute, tous les deux la même correction, tous les deux sont dans l'attente d'eux. L'un pleure parce qu'il a peur, il y a peut-être des araignées. Et il pleure parce que c'est beaucoup plus intéressant d'être dehors et de jouer. Ça, c'était Jean-Marie. Jean-Jacques, lui, il pleurait parce qu'il avait fait de la peine à sa mère. Extérieurement, 100% la même chose. Hein. Mais intérieurement, tout était différent. Et le Saint-Esprit aimerait nous amener, nous, ses enfants, à réaliser, André, ton péché attriste Dieu. Pas besoin d'y râler. Alors, au début de ma conversion, quand j'étais là, puis que je réalisais, mince, je me suis... J'étais un colérique et un sanguin. Je dis, Seigneur, si tu me pardonnes encore ce coup-ci, je te promets, je ne le referai plus. N'importe quoi. Et là, on n'est plus dans la grâce. C'est comme si là, le sacrifice de Jésus ne suffit plus. Je dois y rajouter quelque chose pour avoir droit. Non. Et dans cette marche, le Saint-Esprit aimerait me faire comprendre, André, tu fais de la peine à Dieu. Ensuite, il y a la confession. Alors, la confession vient d'un mot, on comprend bien, c'est homologuer. Hein, ça vient de là. Homologuer, nous, on a des choses homologuées. Hein. Si, par exemple, tu as un chauffage ou un truc au gaz, tu as le brûleur, il est homologué selon les normes françaises ou européennes. Moi, j'étais motard. Le casque, il avait toujours marqué dessus « homologué aux normes françaises ». C'est-à-dire que ça, vous ne pouvez pas rouler avec un casque de cycliste pour faire de la moto. Vous comprenez? Ça veut dire que ça, c'est conforme à ça. Si le casque n'est pas conforme à la sécurité qu'on a décidée en France, il n'est pas valable. Donc, « homologué » veut dire « je me mets en colère et j'élève le ton et... » Vous m'entendrez, Dieu dit, ça c'est péché. Dieu dit, ça c'est péché, moi j'ai fait ça, donc j'ai péché. Vous comprenez l'homologation. Et pas trouver 36 excuses. Quand on s'est marié avec Esther, au début, ces deux êtres bien différents qui s'unissent, avec l'un derrière lui, tout ce qui venait de sa propre famille, et l'autre aussi, tout ce qui venait de sa famille. Et il y a des choses que je faisais qui énervaient Esther, et il y a des choses que Esther faisait qui m'énervaient moi. Et on a essayé au fur et à mesure, de, moi là je vais changer, je ne veux pas te faire de peine. Un matin au petit déjeuner, Esther fait une de ces choses qu'on avait pensé qu'elle ne devrait plus faire. Maître André, j'ai rien dit, rien, mais la façon dont je me suis levé. Que j'ai poussé la chaise, que j'ai fermé la porte, elle avait compris, oh, j'ai de nouveau fait. Oh. Et moi, en tant que juste individu, je monte au bureau. J'ouvre ma Bible et comme s'il n'y avait rien qui passait. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme s'il m'avait dit, André, Va t'a montrer à ta femme comment tu l'aimais. Hein? Mais Seigneur, si je reviens toujours, mais je vais être sa carpette. Elle va s'essuyer les pieds sur ma vie. Il faut quand même que je lui résiste. On avait décidé d'eux. Et vous comprenez, hein? On se justifie. Et on trouve que l'autre aussi, là, quand vous roulez en voiture, que vous êtes pressé, les autres, ils roulent tous mal. Ils mettent le clignotant à droite, ils vont tout droit. Ils mettent le clignotant à gauche, ils vont à droite. Ils font n'importe quoi. Le feu rouge, mais passe donc. Nous allons toujours justifier. Et à un moment donné, la confession de mort ne justifie plus. Confesse, homologue. Quand le Seigneur m'avait convaincu, j'ai décidé d'aller voir Esther. J'aurais jamais cru que le bureau était si loin de la cuisine. J'arrive dans la cuisine, la porte était toujours encore fermée. Esther était déjà en train de faire quelque chose et elle pleurait. Je me suis approché d'elle et je lui dis, écoute Esther, je viens te demander pardon pour mon attitude. C'était vraiment pas sympa. Pardonne-moi. Elle me dit, mais André, c'est normal que tu réagisses comme ça. On avait décidé que et on a compris tous les deux quelque chose. Je ne peux jamais excuser mon péché parce que quelqu'un d'autre a provoqué quelque chose. Vous comprenez? Mon péché était de me mettre en colère et de m'énerver. C'était mon péché. Et de réagir. Elle, devant Dieu, c'est à elle de voir. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce que quelqu'un roule mal en voiture que moi j'ai le droit de faire n'importe quoi dans la mienne. Vous saisissez? Je ne peux pas accuser ou justifier mon péché en accusant l'autre. Mon péché. Et Jésus attend quoi? Je le confesse. Confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. C'est absolument merveilleux. Et nous, on est là et on tourne autour du pot. Et on... Oh, j'étais fatigué. C'est vrai, quand même, la fatigue, c'est... Est-ce que vous saisissez? Donc, convaincu de péché, la contrition, mon péché fait de la peine au Seigneur. Il attend que je confesse. Ensuite, il y a un changement d'attitude face au péché. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les versions d'aujourd'hui, lorsqu'il dit changer de mentalité, changer de mentalité, changer d'attitude face au péché. Ça veut dire, je veux abandonner le mal. J'aime le Seigneur. J'ai compris que le sacrifice, c'était pas à moi de l'offrir, c'est lui qui l'a fait. Et il a payé le prix, hein, je peux vous le dire. C'était terrible quand il était pendu au bois et que la colère de Dieu est tombée sur lui à cause de mon péché et du tien. Mais il l'a fait. Et il demande à ce que je l'abandonne. Ça, c'est une attitude intérieure. Je vais encore pécher et jusqu'au dernier jour. Mais je ne vais pas l'entretenir, je ne vais pas l'excuser, je ne vais pas faire comme si ce n'était pas grave. Et puis j'en trouve toujours d'autres qui sont pires. Combien de fois on a déjà dit, mais, je ne suis pas comme le voisin, hein. Lui il faut voir quand il a bu comment il rend sa femme. Hein. Moi je suis quand même... Mais Dieu ne nous demande pas de nous comparer les uns aux autres. Si je veux me comparer ma vie à quelqu'un, c'est à Jésus. Lui a vécu comme Dieu le voulait. Et là je peux... Tout simplement demander pardon et changer d'attitude face au péché. Ensuite, il y a le dernier, le changement de maître. Je pense à l'apôtre Paul, hein, qui, dans Philippiens, il montre, hein, moi, dans ma religion, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai même persécuté l'Église de Jésus. C'était un bon gars. Et quand il rencontre Jésus au bord du chemin, il a compris que maintenant il doit faire ce que Jésus lui demande. Plus que lui pensait était bien pour Dieu. Vous saisissez la différence? On change de maître. Jésus, il attend non pas que je lui donne une partie de ma vie, mais là, tu ne touches pas, Seigneur. Ça, c'est mon domaine secret. Non, je change de maître. Je lui donne tout. Encore une petite histoire avec des billes. Ça fait partie de ma jeunesse et de mon enfance. À moi, les billes. Hein. Il y avait Jacques encore vraiment un as de la chic. Paf, il arrivait, c'est inimaginable, inimaginable. Mais il avait un secret. Il avait une petite bille verte. Il l'a gardée. Vous savez, vous avez ici dans les jeans une petite poche. Moi, j'y mets la clé de la voiture. Hein. Lui, il mettait sa bille. Et il était convaincu que cette bille lui portait bonheur. Et puis, il joue, il ramasse. Et un jour, il est assis sur le banc avec des billes et il attend que ses copains viennent pour jouer. Et Isabelle arrive. Et elle mangeait du chocolat. Et ce que Jacques aimait beaucoup après les billes, c'était le chocolat. Alors, il est bon ton chocolat? Tu manges souvent une tablette tout seul de ton chocolat? Il espérait que... Puis à un moment donné, elle lui dit, Jacques, tu en veux? J'aimerais bien. Elle lui dit, si tu me donnes toutes les billes, je te donne tout mon chocolat. Rita, j'ai dit, si j'avais pas pris ma petite bille, je lui donnerais bien les autres, je vais les regagner. Alors, discrètement, il regarde, bon, elle est dans cette poche, elle va rien réaliser. Il sort toutes les billes, à part la bleue. Elle est là, elle l'a pas vue. Il a tout donné. Et Isabelle lui donne tout ce qui lui reste comme chocolat. Et il mange, et tout. Et d'un coup, il se dit, mais est-ce que Isabelle m'a donné tout son chocolat? Isabelle! Elle revient. Il dit, Isabelle, est-ce que tu m'as vraiment donné tout ton chocolat? Elle le regarde, elle dit, mais oui, Jacques, je t'ai donné tout mon chocolat. Ah bon? Il met la main sur sa poche, il dit, mais moi, j'ai gardé ma bille. Changer de maître, c'est tout lui donner. C'est lui le maître de mon compte en banque, de mes capacités intellectuelles, des dons et aptitudes naturelles que j'ai et que je peux laisser sans pitié. Vous comprenez, tout lui appartient. Donc, se repentir, c'est être convaincu de péché, réaliser que péché blesse notre Seigneur, le confesser, changer mon attitude face au péché et changer de maître. Et je dois le faire à chaque fois que je pêche. Au début, j'avais l'impression, mais je vais passer mon temps à me repentir. Et c'est vrai que la repentance attitude transforme notre être intérieur. Plus de promesses, je ne ferai plus. Mais on est là devant Dieu, il dit, Seigneur, j'ai encore. Et il me serre dans ses bras, il me dit, je le sais. Mais tu es revenu, le fils prodigue. Le père l'attendait. Il regardait tous les jours s'il allait venir. Et quand il a vu, il a couru, il l'a serré dans ses bras. C'est ce que Dieu attend. Il attend que je vienne tel que je suis et que je reconnaisse mon péché et que je l'avoue, que je m'en détourne. C'est quelque chose d'absolument merveilleux. Lorsqu'ils sont allés pour reconstruire le temple, ils ont d'abord construit l'autel. Parce qu'ils avaient compris que si nous voulons nous tenir dans la présence de Dieu, le sang d'un animal pur doit couvrir notre vie et laver notre péché. Et Jésus-Christ, ce dernier sacrifice, j'aimerais tant qu'on puisse le saisir pleinement, suffit pour Dieu, pas besoin d'y ajouter quelque chose. Venons à lui tel qu'on est, déposons nos vies devant lui, il pardonnera à chaque fois et il attend cette repentance, attitude dans mon cœur. Que le Seigneur nous bénisse. On est là, Seigneur, incapables, par nos propres forces, de vivre comme toi tu le veux, tout simplement parce qu'on est envahi par nous-mêmes. André, il habite en moi, il veut faire, il veut être, il veut faire. Mais nous avons aussi reçu le Saint-Esprit. Tu es venu habiter en nous. Ton sacrifice, il y a plus de 2000 ans, suffit pleinement pour tous mes péchés. Tu attends que je capitule devant toi, que je sois honnête devant toi, que je reconnaisse tout l'égoïsme et l'orgueil qui est en moi et que je le dépose devant toi. Merci parce qu'on n'a pas besoin de se balader avec des bétaillères remplies de moutons. Ton sacrifice unique suffit pour l'éternité. Et on est là aujourd'hui tellement reconnaissant pour cela. Je ne connais pas mes amis qui sont là, pas tous en tout cas. Je te demande vraiment, Père, que celui ou celle qui n'a pas encore pu vivre ce moment puisse ce matin le vivre. Tu es merveilleux, Seigneur, et nous t'aimons. Gloire à ton nom. Amen.
Amen.